Voilà, Étienne, on se retrouve autour de l'an 1000. On a vu dans l'épisode précédent la bataille de Concreuil qui a modifié un certain nombre de choses. Alors on va se retrouver dans une période compliquée et jusqu'au milieu même du XIe siècle à peu près.
Oui, tout à fait. La période est compliquée. Elle est compliquée pour la Bretagne en général et elle est tout particulièrement compliquée pour les Nantais qui sont bel et bien obligés, en tout cas la noblesse nantaise, on va dire la famille du comte de Nantes, elle est bel et bien obligée de considérer qu'elle est sous la tutelle des Rennais et qu'elle dépend quand même un peu des décisions qui sont prises autour d'elle. Donc à ce moment-là, on a vers l'an 1000, on a un comte de Nantes qui s'appelle Judicael, qui est un bâtard d'Alain Barbetorte. C'est lui qui est sorti protéger la bataille de Concreuil, qui finalement a donné le pouvoir à la maison de Rennes.
Oui, alors qu'on avait vu, hein, le vainqueur en fait meurt sur le champ de bataille.
Voilà, tout à fait.
Voilà, c'est assez...
C'est Conan le Thor, hein, qui meurt sur le champ de bataille et qui donc laisse le pouvoir à son fils Geoffroy Ier. Geoffroy Ier va exercer le pouvoir pendant 16 ans. Hein, ce sont 16 années finalement qui vont permettre un peu de structurer les choses, de bien installer en tout cas la hiérarchie. Mais son pouvoir n'est quand même pas encore énorme, il a beaucoup de mal quand même à installer tout cela. Et à Nantes, il y a une grosse contestation évidemment de la part des Nantais qui voudraient conserver un peu léger, enfin en tout cas une espèce de suprématie. Mais le comte de Puyrennes fait venir un fidèle à lui, un évêque qui s'appelle Gauthier. Alors il faut savoir que des Gauthiers, on en retrouve au XIe siècle parce qu'ils étaient Gauthiers et les Gauthiers étaient un peu évêques de père en fils. Mais enfin à l'époque, ça n'avait rien d'original. Et ça va aller très très loin la contestation puisque Gauthier va contester évidemment le pouvoir de Judicael, mais ensuite également le pouvoir du fils de Judicael qui s'appelle Budic, puisque Judicael va rapidement sortir de la scène. Il est assassiné lorsqu'il se rend en 1005, lorsqu'il se rend à Rennes précisément pour essayer un peu de régler les problèmes tels que c'était prévu avec le duc en titre qui à l'époque s'appelait Geoffroy Ier.
Oui, il y a une chose aussi, ce Geoffroy, il va se rapprocher des Normands aussi, c'est une chose qui est assez intéressante à noter.
Oui, effectivement, il se marie avec la fille du duc de Normandie, et il marie sa sœur également avec un duc de Normandie. Alors là, il y a effectivement une politique matrimoniale qui est très intéressante de la part des ducs de Bretagne, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu en danger sur leur frontière au nord avec les Normands, un peu en danger sur leur frontière au sud, sud-est, avec les Angevins, et on voit régulièrement donc une politique matrimoniale. Un jour je me marie avec une Angevine, un jour je me marie avec une Normande, ou je donne ma fille, etc. Et ça prouve également qu'il y a quand même une réflexion politique un peu autour de tout cela. Bon, ce qui est certain, c'est que Geoffroy Ier est incontestablement supérieur en pouvoir à Judicael et à Budic qui va lui suivre.
Ouais. Tous ces événements, on l'avait déjà évoqué dans les épisodes précédents, sont dus aux historiens de l'époque, ou notamment la fameuse chronique de Nantes, voilà. Hein, sur laquelle on peut revenir, qui a son importance à cette époque.
Il y a effectivement un certain nombre de sources à la disposition des historiens. Pour ce qui est de la Bretagne, en tout cas de Nantes tout particulièrement, effectivement, il y a une chronique qui a été écrite au milieu du XIe siècle, qui a été traduite d'ailleurs au Moyen-Âge, et qui a été ensuite édité dans de bonnes conditions, d'une manière très lisible, bilingue, hein, au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle l'édition Merlet, et depuis les historiens ont travaillé dessus et l'ont remise un peu vraiment au bout du jour. On peut la lire assez facilement, il suffit d'aller sur internet, on peut la lire assez facilement, et déjà à la fin du XIXe siècle, il y avait une traduction française qui était très très grand public, et cette chronique de Nantes nous donne évidemment beaucoup de renseignements. Il faut la lire avec un tout petit peu de réserve. Elle a probablement été écrite par quelqu'un qui est assez nantophile, hein, qui est très favorable à la politique nantaise, mais c'est en tout cas un document extrêmement important.
Ouais. On le voit, donc, il faut bien que les deux comtés fonctionnent ensemble. Hein, Rennes, qui détient le pouvoir, et Nantes. Donc les responsables doivent aussi faire bonne figure et tenter quand même de composer ensemble.
Ben dans un certain nombre de cas, ils arrivent à s'entendre. Parfois, ils s'entendent un petit peu moins bien. Et là aussi, il y a une politique matrimoniale au sein de la Bretagne, finalement, qui fait qu'on va voir avancer les choses tout doucement, puisque Budic va mourir en 1038 et il va laisser un fils, donc qui s'appelle Mathias, lequel n'aura pas d'enfant. Et donc, à partir de là, ben c'est la tante de Mathias, c'est-à-dire la sœur de Judic, qui s'appelle Judith, pardon, oui c'est ça, la sœur là qui s'appelle Judith, la sœur de Budic, et qui va se marier avec le comte de Cornouailles, Alain Cagnard. Donc là c'est bien une politique matrimoniale à l'intérieur même du duché de Bretagne. Et en fait pour le duc qui est à Reims n'est pas très très avantageux parce que ça fait une alliance de la Cornouaille avec le pays nantais. Et finalement, on peut considérer qu'il y a pratiquement deux Bretagnes, une qui est en train de se construire autour d'Alain Cagnard, qui est un seigneur puissant de cette époque, hein, le Cornouaillais, qui maintenant, avec son mariage avec le Nantais, enfin avec le Nantais, avec la Nantaise et le pays nantais, finalement devient un seigneur très puissant, puisque le jeune Mathias va mourir sans enfant, et donc par Judith, Alain Cagnard devient l'héritier du comté de Nantes.
Alors Étienne, il y a un personnage dont on n'a pas reparlé et qui est d'importance, c'est Foulque Lenoir, Foulque Nera, qui avait pris la défense du parti nantais. Plutôt.
Oui, tout à fait, c'était pour lui extrêmement intéressant, ça lui permettait d'être l'adversaire des Rennais et puis donc de confirmer un peu sa suprématie sur la partie un peu ligérienne du duché. Bon, il est mort lui aussi au bout d'un moment, mais ses successeurs vont continuer comme lui. Et on retrouvera également beaucoup d'intérêt pour la politique bretonne avec son petit-fils Foulque le Réchin à la fin du XIe siècle.
Oui, donc est-ce qu'on peut parler un peu de cette époque, les mentalités, puisqu'il y a des batailles qui continuent, il y a la religion qui joue un rôle important et des personnages qui sont aussi excommuniés. Hein, on peut peut-être parler un petit peu de cette mentalité aussi de l'époque, mœurs de l'époque.
L'Église joue un grand rôle. Hein, on le voit avec les évêques de Nantes, les Gautier. En fait, le pouvoir, il y a un double pouvoir. Hein, il y a un pouvoir civil, laïque, si on veut, et un pouvoir religieux. Et donc l'idéal pour un comte ou pour un duc, ben c'est finalement d'avoir la main mise un petit peu sur tout et sur tout le monde. Et on verra ça plus tard, puisque les prochains ducs de Bretagne, d'ailleurs, réuniront des conciles. Ce sera le cas, d'ailleurs, à Nantes, au début du XIIe siècle. Et ça montrera bien qu'à ce moment-là, si le patron, c'est bien le duc de Bretagne, ça veut dire qu'il tient l'Église et qu'il tient également les seigneurs laïcs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et les menaces de la religion sont extrêmement importantes.
Alors, on a vu la puissance d'Alain Cagnard, hein, ce seigneur de Cornouailles, qui prend de l'importance, et on peut parler aussi peut-être de son fils Hoël ensuite et de ses héritiers en fait.
Hein. Bien sûr, puisque Hoël va effectivement jouer un grand rôle. Ce Hoël, finalement, donc c'est le fils de Judith et d'Alain Cagnard. Il a donc déjà, dans son héritage, par sa mère, il a le comté de Nantes. Par son père, il est comte de Cornouailles, et il se marie avec la sœur du duc de Bretagne. Le duc de Bretagne meurt sans avoir d'enfant pour lui succéder. Et donc, par sa femme, il devient, Hoël, à la fois duc de Bretagne, avec une possession donc très très forte sur le plan, on va dire, géopolitique. Et c'est vraiment le personnage clé de cette période-là, Hoël, qui réunit un petit peu tous les comtés sous la couronne du duc de Bretagne, dont le pays nantais. Et le fils de Hoël, alors lui, il assoira complètement ce pouvoir, et il donnera justement un peu ses lettres de noblesse au titre de duc de Bretagne.
On verra dans l'épisode prochain aussi ces femmes en Bretagne, l'importance qu'elles ont pu jouer. On en a parlé là, il y en aura d'autres. Oui. Peut-être juste quelques secondes pour parler des Nantais à ce moment de l'histoire, Étienne ?
Mais à ce moment de l'histoire, les Nantais sont dans une situation un petit peu plus avantageuse, puisque le duché est relativement pacifié. Bon, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des risques d'attaque. Mais les Nantais, qui sont intramuros, vivent donc sous la protection des murailles. Et puis, ben, surtout, il faut bien dire que le duc descend régulièrement à Nantes. Nantes est vraiment en possession de la famille ducale, et donc les Nantais vivent relativement protégés, le commerce se développe, et autour également de la cité intramuros se développe un certain nombre de paroisses qui montrent bien que la ville s'agrandit, et elle compte à ce moment-là certainement entre 5 000 et 8 000 habitants peut-être. C'est une bonne taille pour une ville à cette époque-là.